Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Sept messages sur l'Épître aux Colossiens aujourd'hui. La fin d'une chose est meilleure que son commencement. C'est quelque chose que vous pouvez tout aller réécouter sur Internet, à grâceetvérité.org, et vous pouvez suivre la série de Colossiens du premier chapitre jusqu'au quatrième chapitre. Alors, j'espère que vous allez avoir été bénis par cette lettre qui a été écrite de Paul en prison à une église qu'il n'avait probablement jamais visitée. Il était lui-même en prison avec le fondateur de cette église-là, qui s'appelait Epaphras. Et puis, il pouvait encore faire quelque chose pour cette église-là, même si lui-même, Epaphras, était en prison avec Paul, il pouvait encore lutter pour eux. Il pouvait encore combattre dans la prière pour eux. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié dans la prière. On peut avoir des amis, c'est super d'avoir des amis, on a besoin d'amis. Mais avoir des amis chrétiens, c'est particulier. On est vraiment privilégié, si on peut dire, qu'on a des amis chrétiens parce qu'ils ont accès à Dieu par Jésus-Christ au moyen du Saint-Esprit pour rentrer dans la salle du trône puis changer des choses. Alors, on est vraiment privilégié si on peut dire qu'on a un ami chrétien. Même si toi, tu n'es pas chrétien, si tu as un ami chrétien, tu es chanceux. Tu es béni. Si tu es chrétien, tu es encore mieux. Tu peux aller toi-même dans la salle du trône parce que tu as été rendu juste. Et donc, tu peux te présenter devant Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ. La semaine passée, on a parlé de la puissance de l'amitié et aujourd'hui, on va continuer avec ce sujet-là. Et juste un petit résumé, juste en popcorn, de ce qu'on a parlé un peu de la semaine passée. Peut-être que ça va vous donner le goût de le réécouter ou de l'écouter si vous n'avez pas pu être là. On a vu que l'amitié, c'était puissant parce que, et ça va être le titre d'aujourd'hui, on a vu la puissance de l'amitié, premier message, c'est que ça a la puissance de nous motiver. Un ami, des amis autour de nous, ça a la puissance de venir à côté de nous quand on commence à perdre cœur. Ça a la puissance de venir parler à notre cœur, nous encourager à aller de l'avant, nous réconforter. Et comme je vous disais, Paul salue ses amis à la fin de la lettre de Colossiens. Et puis, il les appelle pas juste des amis, il les appelle des frères. Et dans Proverbe 18, au verset 24, « Il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Et donc, Paul est apôtre. Puis on pourrait dire, tu sais, qu'il est comme un apôtre. Puis là, il y a les pasteurs évangélistes en dessous de lui, tu sais. Mais il ne les traite pas avec condescendance, ceux qui travaillent avec lui ou travaillent pour lui. Il les appelle, on a vu dans le message, qu'il les appelait esclaves avec lui. Esclaves avec lui de Jésus-Christ. Hein? Et que parce qu'il y avait un rôle en autorité dans leur vie, il ne prenait pas ce rôle-là pour leur parler comme, tu sais, tu es un employé de première classe. T'sais. Il les traitait d'esclaves avec lui, pour Jésus-Christ. Et un esclave, c'est quelqu'un qui a perdu ses droits, on lui a enlevé ses droits, ou si tu étais un esclave et tu avais choisi. Des fois, il y en a qui avaient un bon maître, hein, puis il avait le choix de sortir ou de rester, puis il choisissait de rester pour un maître. Là, c'était un esclavage de choix. C'est-à-dire que la personne, elle choisissait de rester à l'emploi de ce maître-là. Et en Jésus-Christ, l'esclavage qu'on a, elle ne nous est pas forcée, mais c'est nous qui choisissons de nous placer sous lui. Et on a parlé de Tychique. Tychique qui était un porteur de lettres, mais bien plus que ça, il était utilisé par Paul pour aller réconforter le cœur des Colossiens, pour dire « Hey, ça va, Paul, il est en prison, mais ça va, je vous rassure, je vous donne des bonnes nouvelles. » Des fois, quand ça ne va pas bien dans nos vies, puis on s'inquiète, on a vu dans le dernier message qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'un verset pour nous rectifier. On avait juste besoin d'entendre des fois des bonnes nouvelles puis d'avoir la présence d'un ami près de nous. Dans le dernier message, on a vu aussi que le pardon entre amis est quelque chose de très puissant. Onésime, c'est un gars qui travaillait, qui était esclave de Philémon. Philémon, l'église de Colosse, était dans sa maison. Donc, quand Paul écrit aux Colossiens, il écrit aussi à Philémon une autre lettre. Et dans sa maison, il y a une église, puis lui était esclave. Hein? On a vu ça, qu'il était son esclave. Il avait fui. Probablement, il l'avait volé. Et il s'était retrouvé à Rome, s'était fait encore emprisonner à Rome. Puis là, Paul l'a rencontré en prison. Et Paul a continué à faire du ministère en prison, puis il dit que c'est son enfant qui l'a enfanté dans les chaînes. Onésime est devenu, non seulement était devenu un ami, mais il est devenu un frère, parce qu'il appartenait au même Seigneur. Et il dit, je l'aime particulièrement. Puis ce qui est drôle, c'est qu'Onésime revient porter la lettre de l'Église au Colosse, puis il est avec un gars qui s'appelle Tichic, qu'on a vu tantôt, et il ramène la lettre, puis là, pendant que la lettre va être lue, Onésime, il est assis, puis il va se la faire lire. Et Paul dit, je l'aime particulièrement, Onésime, parce que je l'ai enfanté dans les chaînes. Et on a vu la puissance de dire des mots, des bons mots, de quelqu'un devant les autres. Et surtout, que ce gars-là était connu comme l'esclave qui avait déserté son maître puis qui avait brisé une église. Je veux dire, c'est une église dans une maison. Fait que quand ça touche à quelqu'un dans une petite église, souvent ça touche à la communauté, tu sais, quand on a des conflits comme ça. Puis il disait, je l'aime particulièrement, Onésime, puis il dit, c'est mon frère bien-aimé. Il va dire qu'il est bien-aimé et particulièrement de moi, Paul. On a vu que les bons mots devant les autres ont le pouvoir de créer une capacité pour la grâce puis pour le pardon. On a parlé de Marc aussi. Marc était le neveu de Barnabas. Paul s'est chicané avec Barnabas parce que Jean-Marc les avait abandonnés durant un voyage, puis finalement, Paul dit non, dans mon deuxième voyage, Marc ne vient pas. Puis Barnabas, qui c'était son neveu, hein, écoute, des fois, les choses, les liens de famille, c'est fort. Hein. Fait qu'est-ce que ça a fait? Il a choisi son neveu, il a choisi de ne pas vexer son neveu, puis ils se sont séparés, Paul, ça a fait une division. Paul a dit, Marc vous salue. Ah, Marc vous salue. Hey, Marc vous fait dire salut en passant. Puis s'il vient, recevez-le. Il est en train de tu sais, des fois que les gens choisiraient un esprit de parti, tout ça, puis il est en train de dire, hey, sais-tu quoi, Marc est avec moi, puis il vous fait dire salut. Fait qu'on a eu des différends, ça a causé une chicane entre Barnabas puis moi. Paul est en train de dire, oui, mais Marc, il est revenu me voir avant. Puis il fait partie des trois personnes rares qui sont des Juifs convertis qui sont venus à Rome pour me supporter pendant que j'étais en prison. Fait que s'il revient, là, ben recevez-le. Donc, on a vu la puissance des mots, la puissance de l'amitié, de restaurer aussi quand il y a eu des torts qui ont été faits, de se pardonner mutuellement. Puis il va dire dans Philémon, la lettre de Philémon, elle va être pour que Philémon reçoive à nouveau son esclave et puis qu'il lui pardonne, puis qu'il le reçoive non pas juste comme un esclave, mais maintenant comme un frère. Donc, c'était ça la semaine passée, et là, on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Colossiens, chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage, il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée, pour ceux de Hierapolis, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. On continue avec le verset 15. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Niphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. On a vu la semaine passée que c'était probablement la lettre aux Éphésiens. On a expliqué pourquoi dans le dernier message. Verset 17. « Dites à Archip, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien l'accomplir. » Verset 18. « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier, et que la grâce soit avec vous. » OK. Donc, Épaphras, qui est l'un des vôtres, en parlant du fait qu'il est né là, à Colosse, vous salue. Il est avec Paul en prison. Serviteur de Jésus-Christ ou esclave de Jésus-Christ, dans l'original, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Paul, il dit, j'ai un témoignage à donner à propos d'Épaphras. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui sont à Hierapolis. La distance, c'est à peu près 10 kilomètres. C'est à peu près 10 kilomètres entre l'église de Colosse et Laodicée et Hierapolis. Trois petites églises, mais Laodicée étant le plus grand centre chrétien dans ce coin-là. Alors, Épaphras a été sauvé probablement à Éphèse, qui est à 100 kilomètres de là. Pendant 3 ans, Paul a enseigné jour, soir et nuit, le soir tard, puis il a enseigné pendant 3 ans. Épaphras a probablement été converti là, il est revenu dans son village, puis il a amené l'Évangile, et puis il y a une église qui a grandi dans une maison. Hein, il est esclave de Jésus-Christ. En tant qu'homme, il a renoncé à sa vie pour laisser Dieu le conduire. Il s'est mis au banc des conducteurs, puis il a fait du Seigneur non seulement son sauveur, mais aussi le maître de sa vie. Et il est emprisonné, comme je disais tantôt. Et dans Philémon 23, on voit que lui aussi, il est un compagnon de captivité. Il n'est pas en visite en prison, il est compagnon de captivité aussi avec l'apôtre Paul. Et le texte dit qu'il combat. Il ne cesse d'en combattre pour vous. Comment il le fait? Il le fait dans ses prières. Tout au long de l'épître, Paul, quand il dit « je combats pour vous », parce que lui aussi, il dit « je combats », puis le mot, c'est se préparer ou se battre dans des combats olympiques. Je fais vraiment comme je prends des adversaires, puis je prends ça pour vous. C'est sûr qu'ils le font parce qu'ils sont en prison pour l'Évangile, sont là et sont accusés à tort d'avoir s'être levé contre le Temple en disant qu'on était rendu le Temple. C'est comme s'ils parlaient contre le Temple de Jérusalem. Ils disaient aussi qu'on n'avait pas besoin d'être circoncis pour avoir la vie éternelle. Et ça leur a causé du tort parmi les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus. Et certainement, il combat parce que c'est pour la foi qu'il est en prison, mais certainement aussi, il y a un combat qui fait, c'est qu'il va prier. Il va prier pour eux autres. Dans Colossiens, au chapitre 2, je ne sais pas si je l'ai à l'écran, non? Paul va dire lui-même, là, il vient de dire, Épaphras combat pour vous. Mais dans le chapitre précédemment, au chapitre 2, verset 1, il disait, « Je veux en effet que vous sachiez à quel point est grand le combat que je soutiens pour vous. » Et c'est essentiellement de prier pour l'autre. Et aujourd'hui, donc, je veux parler de l'importance de combattre pour nos frères et sœurs, de combattre pour nos enfants qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu, de combattre pour ces gens-là qu'on aime. Okay? Et donc, je trouve que prier pour quelqu'un, c'est une porte extraordinaire pour l'Évangile. C'est quand tu vois quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, tu lui demandes la permission. Est-ce que je pourrais présenter ta cause devant Dieu? Est-ce que je pourrais prier pour toi? Si vous avez un peu plus de courage, est-ce que je pourrais prier avec toi? Pas nécessaire que la personne fasse la prière et qu'elle comprenne les quatre points de l'Évangile pour qu'on prie avec. On peut prier avec. On peut l'inviter dans la présence de Dieu. Et ça prend peut-être un petit peu de courage, mais vous ne le regrettez pas de l'avoir fait. Si vous le faites avec des gens qui sont plus proches, peut-être vous allez commencer par là. Si vous parlez avec un inconnu, il va peut-être dire « Oh, c'est weird », surtout si vous êtes dans un endroit public. Bon, ça dépend de... Mais certainement, est-ce que je pourrais prier pour vous, pour ça, puis vous redemander des nouvelles dans pas grand temps? C'est une très bonne porte pour l'Évangile parce que, touché par la situation d'une personne, cette personne d'abord va voir que tu n'es pas comme la plupart des gens dans ce monde, préoccupé par ton propre bien-être en premier. Et donc, tu reconnais qu'ils font face à une situation plus grande qu'eux, et souvent, les gens vont accepter qu'on prie pour eux. Et donc, c'est une très belle porte pour l'Évangile. J'ai regardé un article, c'est « The Benefit of Praying with a Friend », les bénéfices de prier ensemble. Donc, 6 bénéfices, on va regarder, j'ai tiré quelques informations de cet article-là. 6 bénéfices importants pour des amis qui prient ensemble régulièrement. Premièrement, il y a une connectivité qui s'installe. Et on est avec une autre personne, et puis on invite Dieu. Et ça devient un trialogue entre nous, l'autre et Dieu. Et donc, pendant que l'autre expose ce qu'elle vit, toi, tu écoutes, et ça place chaque individu dans une place de vulnérabilité, un endroit où nous reconnaissons que ni moi, ni toi, on peut faire quelque chose pour cette situation-là, mais on peut aller voir quelqu'un qui peut au-delà de nous autres. Donc, ça montre une certaine vulnérabilité. Hein? Ça nous fait comme, pas juste paraître faible, ça nous rend faible. La prière, en fait, on réalise que souvent, qu'est-ce qu'on garde pour la dernière ressource, la dernière chose que, bon, mais à ça qu'on a tout essayé, on va prier. Ça nous montre sans moyen. Et ça, c'est beau devant Dieu, de le faire devant Dieu et aussi devant les autres. C'est une manière puissante de partager l'amitié aussi dans un couple. Partager qu'est-ce que je vis, et ça fait des années que je l'enseigne dans les séminaires sur les relations, puis je le répète parce que c'est quelque chose qu'on oublie facilement, c'est des disciplines qui sont dures à garder, tu sais. Fait que de partager qu'est-ce que tu vis? As-tu quelque chose que tu vis, que tu as vécu aujourd'hui, une émotion que tu as vécue, puis est-ce que je peux prier pour toi? Et ça vient mettre une intimité parce qu'on ajoute Dieu dans la somme des deux. Et ça fait quelque chose de vraiment bon. Ça se fait aussi entre amis, bien sûr. Et donc, à chaque fois qu'on est dans une position de vulnérabilité comme ça, il y a une ouverture à l'autre qui se crée. Et la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui combat pour vous? Et combattez-vous vous-même pour quelqu'un? Je vous invite les mercredis à expérimenter la puissance de Dieu dans la prière en le faisant en groupe aussi. Donc, la qualité d'une connectivité, quand on est deux personnes qui prient l'un pour l'autre, va dépendre de la confidentialité de ce qui va avoir été dit quand je me suis confié. Si je parle de mon problème, c'est parce que je veux qu'on prie pour moi. Ce n'est pas parce que je veux finir dans le bulletin de l'église ou du village. « Hey, as-tu vu, il vit vraiment quelque chose? » Oui, mais il te l'a confié à toi. Donc, c'est important de rester confidentiel le plus possible quand que vous échangez des recueils de prières avec quelqu'un. Puis plus que la personne va sentir que le coffre se referme après que vous ayez discuté ensemble, plus qu'elle n'aura pas peur de paraître sur son vrai jour parce qu'elle veut vraiment que Dieu réponde à cette prière-là. Il y a des gens qui vont payer des centaines de dollars pour aller voir des psys parce qu'ils ne sont pas capables de se confier en quelqu'un pour partager leur combat. Les gens qui se rencontrent, l'auteur de l'article dit, les gens qui se rencontrent et qui parlent à Dieu pour le bien-être d'un autre ont un avantage spirituel, social et émotionnel par rapport aux autres. Vous êtes chanceux si vous avez un ami qui prie pour vous. Il y a des études qui ont été faites que les gens pour qui on priait, pas ceux qui prient, les gens pour qui on priait guérissaient plus vite. Des articles scientifiques intéressants. Je n'ai pas eu la chance de mettre la main dessus pour le message, mais je l'ai déjà montré à l'Église. Avoir un ami croyant, c'est précieux. Donc, ça amène de la connectivité, hein? Ça amène aussi de la coopération. Prier en équipe aide à prier. Quand on prie en groupe, on prie plus longtemps. On prie de façon plus persévérante. Si on a une réunion parce qu'on sait qu'on va devoir prier les uns pour les autres, c'est une coopération qui nous aide à persévérer dans la prière. Une personne qui vit un deuil ou qui est en dépression peut-être a besoin d'un réajustement d'attitude. Pas qu'elle a besoin de changer, mais l'attitude d'un autre qui est plus positive puis qui dit « Non, non, tu vas voir, ça va aller. » Juste ça. Parce que si la personne prie tout seule avec son deuil et sa dépression, elle voit noir, elle voit le plancher, elle regarde qu'est-ce qui ne va pas, elle ne s'en sort pas, elle est dans un cercle. Mais quand une personne un petit peu plus positive embarque dans cette prière-là, l'autre vient injecter de l'espoir, puis peut-être elle va prier un petit peu plus selon la volonté du Seigneur aussi, parce que l'autre est en dehors de sa situation. Donc, ça ajoute de l'objectivité, ça amène, ça la sort de sa subjectivité à la personne. Une personne qui est impatiente de voir Dieu agir va être aidée par une personne qui est plus patiente, hein, qui va ramener la patience de l'autre. Donc, la Bible a dit, si on prie, puis y compris selon la volonté du Seigneur, nous savons qu'il nous écoute puis qu'il nous donnera ce qu'on a demandé. Donc, en équipe, on va être des fois, notre pensée va être corrigée envers quelque chose qui est plus la volonté du Seigneur pour notre vie. Ça amène de la coopération. Une autre chose que ça amène de la compassion. La compassion pour les autres nous sauve de l'apitoiement sur soi-même. Aller dans une réunion ou aller prier pour quelqu'un d'autre puis s'intéresser à qu'est-ce que l'autre vit, ça nous sort de juste « Ah, moi, mon mien, qu'est-ce que je vis? » à être absorbé par soi. Donc, être dans une réunion de prière ou avoir un partenaire de prière, ça nous aide à sortir de l'apitoiement de sur soi. Et quand une personne prie pour les autres, elle-même a ses besoins couverts par Dieu. Et j'ai aimé le verset de Job 42:10 qui dit « Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. » On se rappelle que dans le livre, il perd tout. Et ses amis, à la fin, ils ont besoin que Job prie pour eux. Et à son tour, il prie pour eux et Dieu le bénit. Pendant que tu sers les besoins des autres, Dieu couvre tes besoins. Et c'est une belle chose que de l'altruisme. Quand tu commences à prier systématiquement pour les besoins d'un autre, la compassion vient. Donc, parfois, il faut que tu fasses le geste avant d'avoir le cœur. OK? Un chien, par exemple, qui met toujours la queue entre les jambes, tu peux élever la queue un peu. Puis à un moment donné, il va développer de l'assurance. Ils ont étudié ça dans le comportement d'un chien. Et des fois, pour avoir la compassion pour quelqu'un, il faut que tu commences à prier pour quelqu'un. Commence à t'intéresser à sa situation. Et là, tranquillement, tu vas avoir, à chaque fois que tu vas penser, Louise, tu penses poumon. Comment vont ses poumons? OK? Fait que, c'est pourquoi? Parce que quand que tu penses à elle, tu as tendance à prier pour ce besoin-là. Et donc, qu'est-ce qui vient? Quand tu penses à des noms, tu penses à qu'est-ce que la personne vit. Et donc, la compassion vient par l'exercice. Ça, c'est comme du jus de carotte. Tu n'aimes pas le jus de carotte? Prends-en 2 semaines. On s'en reparlera. Ton corps va en redemander. Mais je pense que l'homme spirituel a besoin aussi d'avoir un certain ajustement. C'est-à-dire que si tu commences à prier pour les gens, tu vas avoir, « Oui, mais moi, je n'ai pas de compassion, je ne prie pas pour les gens. » Non, prie pour les gens et tu vas avoir éventuellement le cœur de Jésus pour ces gens-là. Ça développe la compassion, prier pour les autres et prier avec les autres. On va avancer au prochain clic. OK. Ça l'amène la confiance. Le plus fort croyant parmi nous peut expérimenter la faiblesse et c'est facile d'être découragé quand tes œuvres te disent que tu n'y arriveras jamais. Quand tu sens que c'est bien beau la grâce, mais il me semble que je pêche tout le temps. Puis là, à un moment donné, tu commences à penser que tu n'y arriveras pas et tu finis par croire que tu es un échec et tu n'as plus confiance en toi, alors pourquoi tu ferais confiance en Dieu? Et là, tu ne tournes plus les yeux à Dieu, tu as les yeux sur toi, puis même tu as les yeux au sol. Tu as les yeux au sol et finalement, il y a quelqu'un qui... Qu'est-ce que tu as besoin dans ce temps-là? Tu as besoin d'être écouté. Tu as besoin parfois de conseils et souvent de prières. Et qu'est-ce que ça fait? Ça t'ordonne une poussée dans le dos. Ça relève ta tête. Je suis allé faire du parachute hier. Je dis, il y a une chose. Je suis allé voir l'instructeur. Il dit, tu lèves le menton puis tu donnes de l'amour à ton instructeur. Il dit, tu t'accotes sur son épaule. Il dit, tu n'es pas obligé de te frotter. Là. Non, non, mais c'est une blague. Fait que lève la tête en haut, tu sais. Fait que là, j'avais un instructeur qui était plus petit que moi, puis il m'a dit, toi, il dit, vu que tu fais proche que 6 pieds, il dit, je sais pas si ta tête va sortir de la porte. Fait qu'il dit, sors ta jambe gauche de l'avion, tout de suite, puis il dit, accote-toi, mais vraiment par en arrière, tu sais, relève la tête. La prière nous aide à relever la tête et à retrouver confiance en Dieu et retrouver confiance en soi. Ça rebâtit la confiance de tourner le regard à nouveau vers le Père, de qui vient tout don parfait. Puis ça donne l'espoir. Donc, restaure la confiance. Et aussi, c'est bon pour la continuation. Si on prend l'habitude de prier pour quelques personnes sur une base régulière, si on a une réunion de prière régulière, on ne risque pas de dire, « Ah, oh, je vais prier pour ça. » Tantôt, il y a quelqu'un qui m'a confié quelque chose, je l'ai écrit dans mon cellulaire. Fait que je ne suis pas en train de texter quand je suis dans les louanges avec mon cellulaire. Soit je suis en train d'écrire de quoi pour mon message ou un aide-mémoire, il ne faut vraiment pas que je l'oublie. Okay? Mais ça a rapport souvent à ce qu'on est en train de vivre ici. Donc, je ne texte pas pendant les louanges. Non, j'étais en train d'écrire une requête de prière. Ouais, tu sais. Puis là, quand le pasteur parle, ah, c'est une requête de prière. Non, une joke. OK. Donc, Si tu as une réunion de prière ou un moment cédulé pour prier de façon systématique, ça ne risque pas de dire « je vais prier pour toi, ah, ouais, je vais prier pour toi ». Mais finalement, tu sais, « crème, je n'ai pas prié ». Puis la personne va te voir « hey, merci d'avoir prié, en tout cas, Dieu a bougé, bienvenue ». Mais tu n'as pas prié vraiment. T'sais. Donc, prier pour quelqu'un demande de la continuité. Samuel, lorsque Israël a commencé à s'éloigner, puis ils ont suivi Saül qui s'égarait, dans 1 Samuel 12 au verset 23, Samuel a dit, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. » Samuel se faisait un devoir de prier pour les enfants de Dieu au point où, s'il ne le faisait pas, il considérait qu'il avait péché. Laissez-moi vous parler un peu de Spurgeon. Spurgeon, j'ai lu un message sur la prière hier, puis j'ai aimé cette citation. Je vais le traduire en même temps. Donc, ça dit, « Quand la réunion de prière est méprisée, il peut y avoir... je pense qu'on l'a à l'écran. Ah, good. Là où la réunion de prière est méprisée, il peut y avoir de l'habileté dans le prédicateur, mais il n'y aura pas d'onction dans l'auditeur. Oh, mes frères, je vous en supplie, tant individuellement, qu'ensemble, qu'en Église, de ne pas limiter la prière. » Le gars peut arriver, prêcher, Mais nous, on n'utilise pas le mot « onction ». Mais vu que c'est une citation, je l'ai mis entre guillemets. Pourquoi? Parce que l'onction est utilisée juste deux fois dans le Nouveau Testament. Une fois pour parler du Saint-Esprit qu'on a reçu une fois pour toutes. Puis l'autre fois, ça parle que l'Écriture est inspirée de Dieu, soufflée par Dieu, par le Saint-Esprit. Okay? Donc, c'est souvent un terme qui est utilisé à toutes les sauces. Vous savez, il y avait de l'onction dans le message un matin. Hey, t'as-tu vu l'onction de cet homme-là ou l'onction de? C'est rendu qu'on va prier sur les tombes des anciens prédicateurs pour avoir leur onction. Bien, c'est ça. Ça rouvre toutes sortes de fausses doctrines, ce mot onction-là, parce qu'on le met à toutes les sauces. Mais on pourrait dire qu'il n'y a pas d'impact sur l'auditeur. Tu sais, le gars, il s'est préparé, il a étudié son message. Lui, il s'est préparé. Lui, il a prié, il est baigné dedans. Mais ses paroles tombent là, ici, juste au pied du pupitre. Les gens ont été divertis, ils ont été amusés, ils n'ont pas trouvé le temps trop long, mais il n'y a pas de vie qui ont été transformées parce qu'il n'y a personne qui a demandé rien. Et dans le fond, on va recevoir ce qu'on a demandé. Hein? On va recevoir ce qu'on a demandé. Et donc, Spurgeon disait, écoutez, je vais vous lire un petit peu à propos de Charles Spurgeon dans un article que j'ai lu sur Top Chrétien, qui est une citation d'un autre site qui s'appelle The Watchword. Lui, c'était un des plus grands prédicateurs de l'Angleterre. Hein? Les gens du dernier siècle, les pasteurs du dernier siècle, l'appelait comme ça, un des plus grands. On l'appelle le prince des prédicateurs. Il y a 73 volumes d'encyclopédie que vous pouvez mettre dans votre bibliothèque de messages. Les messages étaient retranscrits. Spurgeon reconnaissait en permanence que son succès était le résultat direct des fidèles en prière dans sa congrégation. Et lorsque les visiteurs venaient dans son église, il leur faisait visiter le sous-sol et il disait « ça, c'est la fournaise de l'église ». Il appelait ça « le centre de la puissance de cette église ». Dans son autobiographie, Spurgeon exprimait sa reconnaissance d'être béni par une église priante. Il dit « je donne toujours toute la gloire à Dieu, mais je n'oublie pas le fait qu'il m'a donné le privilège d'exercer mon ministère dès le début envers un peuple qui prie ». Spurgeon considérait la réunion de prière comme le thermomètre spirituel d'une église. La nuit de prière, qui avait lieu le lundi dans son église, a eu la réputation qui a parcouru la terre entière pendant plusieurs années. Chaque lundi soir, une grande partie de du sanctuaire de Spurgeon, de l'église de Spurgeon, était remplie d'intercesseurs sincères et fervents. Aux yeux de Spurgeon, une réunion de prière était la réunion la plus importante de la semaine. C'est à ce niveau que plusieurs d'entre nous nous trouvions en conflit avec notre cher M. Spurgeon. Donc, celui qui a écrit disait, on n'était pas d'accord avec ça. Nous aimions nos réunions de prédication et de louange et malheureusement, nous négligions celles consacrées à la prière. L'une des plus grandes préoccupations de Spurgeon était que son Église apprenne à prier véritablement. Il enseignait à son assemblée à prier, donnait bien plus d'exemples par sa propre expérience que par sa prédication. Les gens l'entendirent prier avec une réalité qu'il devenait éhonté de leur simple prière faite de répétition de mots. À travers tout son ministère, les auditeurs remarquaient qu'il était touché par sa prédication, mais encore bien plus affecté par ses prières. D.L. Moody, qui était un grand prédicateur de ce temps-là, après qu'il a visité la première fois cette église en Angleterre, il a été interrogé en ces termes. « Avez-vous entendu Spurgeon prêcher? » Les gens lui demandaient. Il répondait « Oui, mais mieux que cela, je l'ai entendu prier. » Un proche ami de Spurgeon fit le commentaire suivant sur sa vie de prière. « Ses prières publiques étaient d'une inspiration, mais ses prières en famille étaient pour moi encore plus merveilleuses. Monsieur Spurgeon, lorsqu'il s'agenouillait devant Dieu dans les temps de prière familiale, semblait bien plus grand homme que lorsqu'il captivait des milliers par son éloquence dans ses prédications publiques. » Spurgeon reconnaissait tout à fait que le plus grand besoin de l'Église n'était pas d'avoir un autre prince des prédicateurs, mais d'avoir davantage de princes de prière. Devrais-je vous donner une raison de plus au fait que vous devriez prier? J'ai déversé, il disait, sur ce sujet tout mon cœur dans mes prédications et je ne pourrais pas dire davantage sur ce que j'ai déjà dit. N'est-ce pas vos prières qui accompliront ce que mes prédications n'ont pas réussi à faire? N'est-il pas vrai que l'Église a mis en avant bien plus son habileté à prêcher que son habileté à prier? Ô chers amis, rentrons dans l'agonie de la prière. Donc, intéressant. Et donc, on rentre dans la célébration. Le dernier point qu'on veut voir par rapport à les bénéfices, c'est la célébration. C'est édifiant d'entendre, ou c'est édifiant d'attendre, de dire, hey, à la prochaine réunion, de ceux avec qui j'ai persévéré en prière, j'ai vu l'accomplissement, j'ai hâte de leur dire qu'ensemble, nous avons eu la victoire avec Dieu et que Dieu a donné une récompense au fait qu'on l'a cherché, puis j'ai hâte de raconter ce témoignage-là à mon équipe. C'est édifiant d'entendre un témoignage d'une réponse à la prière, et tout le monde ne le fera pas devant un groupe. Qui ici ne parlera pas si on est plus que 7-8? Levez la main, ceux qui ne parleront pas. Levez la main, ne soyez pas gênés, je ne vous ferai pas parler, c'est promis, OK. Qui va parler même si on est 50 ici? Levez la main, ouais. OK. Donc, quand tu es en bas de 6-7, ou même juste un partenaire, tu vas facilement raconter. Mais sinon, tu restes pogné avec, comme j'ai gagné 6,49, je ne peux pas en parler. Tu sais, c'est comme, ça te brûle en dedans, mais tu ne peux pas en parler. Donc, c'est partager à un ami, partager à un petit groupe. La célébration est un élément critique pour continuer à prier. Parce que moi, mes prières n'ont pas encore été répondues, mais la tienne l'a été. Et ça m'encourage de voir que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, puis ça me donne le goût de persévérer. OK? Et donc, on voit dans le verset d'aujourd'hui, on voit que Paul combattait et ne cessait de combattre pour eux dans leur prière afin qu'ils tiennent bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Si jamais quelqu'un pourrait aller me chercher une bouteille d'eau, j'apprécierais. Merci. Donc, les Colossiens, comme nous en 2016, ils ont deux aspects qui entravent leur progrès. Et quand je vous dis, admettons, il y a deux choses pour lesquelles vous devriez prier quand vous priez pour quelqu'un, qu'est-ce que ça serait? Deux choses, deux aspects de leur vie pour lesquels vous pourriez prier. Donc, la persévérance, continuer. Leur foi, leur relation avec Dieu. J'espère que tout ce que vous me dites va être dans les deux catégories. C'est intéressant jusqu'à présent. Deux choses ou une chose que vous priez pour une personne. La constance. Constance dans la prière elle-même. Excellent. Donc, je vais essayer de bâtir un peu sur des acquis. C'est que je vais faire des phrases qui sont clés, que j'ai souvent répétées au travers des années, mais deux fois de différentes façons. Je vais essayer de les répéter toujours de la même façon pour essayer de bâtir sur des acquis. Puis je vais vous reposer des questions comme ça. OK? Puis c'est juste des aides mnémoniques, là, c'est-à-dire des aides sonores qui vont nous aider à se rappeler. Donc, premièrement, les deux D qui débloquent. Fait que je vais dire, ça serait quoi les deux D qui débloquent dans la prière? Puis là, vous pourriez me répondre, OK? Donc, premièrement, les défis. Deuxièmement, les difficultés. Donc, D. Hein? Donc, les deux D qui débloquent, les difficultés. Merci, Gilles. Les difficultés et les défis. Les défis, c'est dans le domaine du possible, la personne peut faire quelque chose, mais elle ne le fait peut-être pas. Okay. Et où elle a besoin de courage pour le faire, mais elle sait qu'est-ce qu'elle a à faire, puis souvent c'est un défi d'attitude, une discipline, une action à faire. Il y a quelque chose à faire et c'est dans le domaine de son possible, c'est quelque chose qu'elle a à faire. Et Dieu doit nous donner la sagesse de connaître la différence entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Et il y a certainement dans la difficulté des choses qui sont hors du contrôle de la personne, puis une intervention divine serait nécessaire, ou une intervention de l'extérieur, comme si c'est une personne qui est très dépressive, puis qui regarde le plancher, puis qui a peut-être besoin aussi d'aide de l'extérieur. Pas juste besoin de changer quelque chose, elle a besoin d'aide. Donc, c'est une difficulté. Mais les deux nous empêchent de progresser dans les voies du Seigneur, à avancer dans notre vie. Et donc, les deux dés qui débloquent, les défis. Et lorsque vous dites « je vais prier pour Georges », qu'est-ce que serait son défi? Qu'est-ce qui est son défi? Qu'est-ce qui est sa difficulté? Trouve-en juste un, puis bump-le. Quand tu vois qu'il a réussi, tes prières font effet, puis que le défi a été bien relevé, cherche c'est quoi le prochain défi pour qu'elle aille plus loin avec Dieu. Je vous dirais, si c'est comme ça qu'on édifie une église, puis qu'on édifie un frère, on cherche avec lui, s'il veut, quel est son défi, quelle est sa difficulté. La difficulté, c'est bien beau vouloir, mais elle ne peut pas. C'est quelque chose qui est à l'extérieur de son besoin. L'Église de Colossiens avait ces mêmes combats-là. Il y a trois éléments dans le combat. Et il dit qu'Épaphras, il combat pour eux afin qu'ils tiennent bon, qu'ils maturent et qu'ils soient pleinement disposés. Tenir bon, Épaphras est en prison, leur pasteur fondateur ou l'évangéliste fondateur de cette Église-là. Et eux, ils viennent de sortir d'une division. Ils viennent de vivre quelque chose. Ils vivent quelque chose où ils sont en train de sortir d'une division où il y a des enseignants qui sont venus apporter un autre enseignement que ce que Paul avait enseigné avec Épaphras. Donc, lâchez pas. Je prie, comme vous avez dit, Constance, de ne pas lâcher, de persévérer. Qu'il mature, vous avez peut-être là, dans la Louis II, au verset 13, je pense, qu'il soit parfait. Parfait. Quand vous avez le mot parfait, on a vu ça dernièrement avec Pasteur Richard, que ce n'était pas nécessairement perfection morale. Quand ça dit que l'homme de Dieu soit parfait, ce n'est pas qu'il soit sans faille ou qu'il n'ait pas échoué, c'est qu'il est complet. Il n'y a rien qui lui manque pour servir et marcher avec Dieu, hein? Qu'il soit complet. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, le mot « maturer » pourrait peut-être être le mieux. Je l'ai mis entre guillemets parce qu'il semble qu'il n'y a pas de ce mot-là en français. Puis qu'il soit pleinement disposé. Le mot, c'est « pléro phoreo ». Et ça veut dire, il y a deux expressions dans le Nouveau Testament. Il y a « être rempli d'une pleine conviction », ce qu'on a, vous, dans la Louis II 21, vous avez parfaitement persuadé, non, pleinement persuadé. Puis je pense, dans la seconde, vous avez pleinement convaincu. Bon, le terme est utilisé de deux façons dans le Nouveau Testament. C'est Épaphras qui prie pour les Colossiens afin qu'ils soient, bon, on va voir, qu'ils soient pléro-phoreo. Le mot, un des choix, c'est pleine conviction. Quand Abraham, par exemple, dans Hébreux 11, on dit de lui, dans Hébreux 11, 21, Abraham, on lui a dit qu'il y aurait un enfant dans son vieil âge, puis là, il commençait à être vieux, puis ça commençait à être impossible que se réalise cette promesse-là. Mais c'est écrit, il fut rempli d'une pleine conviction que ce que Dieu avait dit pouvait aussi l'accomplir. Donc, les yeux me laissent croire que ça n'arrivera jamais, mais pleine conviction. Tu sais, Colossiens, c'est comme petite église dans une campagne, dans une maison. Je veux dire, notre pasteur est en prison. Je veux dire, on n'y arrivera pas, tu sais. Je veux dire, que vous soyez pleinement convaincus. L'autre façon d'utiliser ce mot-là, c'est remplir bien son ministère. Dans 2 Timothée 4, 3, Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles. Les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se donner une foule d'enseignants qui vont être conformes à leurs propres désirs. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Ils vont se tourner vers des histoires, des fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Remplis bien, bien rempli. Pleine conviction. Okay? Donc là, ici, ce que Timothée devait faire, c'est de bien remplir, de bien faire son ministère. Et le sens ici, quand Épaphras prie que vous soyez pleinement convaincu, c'est que vous soyez pleinement en train de remplir la volonté de Dieu, en train de la faire, la volonté de Dieu. Okay? Et Paul, il l'avait dit un peu plus tôt, dans le chapitre 1, vous pourrez le lire à la maison, 8 à 11. Il y a deux problèmes qui apparaissent par rapport à la volonté du Seigneur. Okay? Deux problèmes qui apparaissent, c'est faire et ne pas savoir. Donc, je fais ce que je pense être la volonté du Seigneur, mais je ne suis pas enseigné. Je fais ce que je pense être la volonté du Seigneur, mais je ne suis pas enseigné. Et ça fait des gens qui sont superficiels. Dans Ésaïe 29, au verset 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte et une tradition humaine. Ils le font parce que quelqu'un d'autre leur a dit de le faire. Ils font des choses parce que quelqu'un leur a dit de le faire, mais ils ne sont pas persuadés à l'intérieur que ce qu'ils ont à faire, c'est ça. Puis là, ils le font. C'est ils font des choses extérieures. » Et là, Jésus va citer deux fois dans Marc puis dans Matthieu ce verset d'Ésaïe pour dire que quand ils abandonnent leurs parents parce qu'ils suivent des traditions d'hommes, ils ont rentré dans un moule de faire ce qu'ils pensent qui plaît à Dieu parce que d'autres leur ont dit que ça plaisait à Dieu, mais ils sont rentrés dans une vie superficielle et ça a créé des hypocrites. Pourquoi? Parce que quand on fait les activités chrétiennes sans comprendre qu'on fait les choses pour le Seigneur, on tombe dans un formalisme ou dans la forme extérieure, mais à l'intérieur, nous ne sommes pas transformés. Et ce que Dieu veut, c'est de changer nos cœurs et de remplir l'intérieur pour que on puisse comprendre la volonté du Seigneur, qu'on soit persuadé de sa volonté, puis qu'on veuille l'accomplir. Sinon, on va finir par faire d'autres choses qui ne plaisent pas au Seigneur, puis Dieu va dire, c'est pas, je cherchais un cœur pour pouvoir faire à l'extérieur. Et donc, ça va produire éventuellement des légalistes, des gens qui vont substituer ce que Dieu dit par des choses qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Et là, Dieu il nous dit que c'est la foi qui plaît à Dieu. Et donc, c'est la foi dans les Écritures. Un père de l'Église qui a vécu dans les années 344, Chrysostome, a dit, « Il ne suffit pas simplement de faire la volonté ou sa volonté du Seigneur. Celui qui en est rempli ne subit pas d'autre volonté en lui-même autrement, c'est qu'il n'en est pas totalement rempli. » Pleinement persuadé que ce que je fais, c'est ce que le Seigneur veut pour moi, parce que j'ai été enseigné, je suis persuadé de sa volonté et je le fais. Okay? Si je fais quelque chose puis en dedans je veux toujours être ailleurs, bien, c'est que je suis rempli de deux volontés, ma chair puis celle de Dieu. Okay? Et donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'être renouvelé dans l'esprit de mon intelligence pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc, Dieu cherche à transformer nos cœurs. Et c'est seulement en comprenant sa volonté que je peux faire pleinement sa volonté. Donc, je dois être persuadé à l'intérieur pour pouvoir remplir bien la volonté du Seigneur. Problème numéro 2. Donc, faire et ne pas savoir, ça produit des hypocrites éventuellement, des gens de surface, des gens qui chantent, qui font les exercices chrétiens, mais qui à l'intérieur sont éloignés du Seigneur parce qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que Dieu veut d'eux? L'autre, c'est savoir et ne pas faire. Ça aussi, c'est un problème. Je suis rempli de sa volonté. Je l'ai entendu bien en masse. Mais là, ça, savoir et ne pas faire, c'est quoi? Ça fait quoi? C'est quel genre de personne? quel genre de personne que ça fait? Quelqu'un qui sait, mais ne fait pas? Ça fait une personne désobéissante, parce qu'elle le sait et ne le fait pas. Et souvent, on réagit à la première, c'est de faire et de ne pas savoir, puis on dit, aux autres sont légalistes. On réagit à ça, et nous, on devient antinomiens. Antinomiens, ça veut dire quoi? Il n'y en a pas de loi. Il n'y en a pas de loi. Et donc, en faisant ce raisonnement-là, on comprend mal la grâce. Des fois, j'ai remarqué que c'est des gens qui ont de la difficulté avec la culpabilité. Ils ont de la misère à se sentir coupable, fait qu'ils disent, il n'y en a pas de loi. Je suis tanné de me faire sentir coupable, puis de faire sentir qu'il faut que je fasse quelque chose, j'y arrive pas, j'ai jamais arrivé, j'ai pas arrivé jusqu'à aujourd'hui, fait qu'il n'y en a pas de règle. Pas de règle, pas de culpabilité. Il y en a d'autres qui ont été blessés par des attentes sévères, par des parents qui étaient toujours, c'était jamais correct, c'était pas bon, puis c'était toujours des devoirs, 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 devoirs. Il y en a qui sont tannés de l'école à cause qu'ils ont eu des mauvaises expériences aux examens, les devoirs, le mot devoir, les fatigues. Ils ne veulent pas avoir d'obligation. Mais quand on enlève la règle parce qu'on se sent mal ou qu'on enlève la règle parce qu'on se sent coupable, il arrive quoi? C'est qu'on ne connaît pas le Père. Hein? Puis l'histoire humaine nous montre qu'on ne veut pas d'un Dieu qui règne sur nous. Si Dieu nous donnerait deux arbres, un qui nous donne la vie, puis l'autre qui nous permet de connaître sans lui, puis qui nous dit qu'on ne peut pas aller dans l'arbre qui nous permet de connaître sans lui, celui qui va nous fatiguer le plus, c'est celui qu'on n'a pas le droit d'aller manger. On est fatigué avec les règles et les obligations parce qu'on ne veut pas d'un Dieu qui nous dise non. La loi excite le péché. La loi est-elle mauvaise? Ce n'est pas la loi le problème, c'est mon péché le problème. Ça excite ce qui est mauvais en moi. Donc, l'homme, à cause qu'il ne veut pas voir le miroir de l'Écriture, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « la loi est mauvaise ». Non, Paul dit « si la loi, elle vient exciter le péché, ce n'est pas la loi qui est mauvaise, c'est moi. C'est moi qui est né dans le péché puis qui est né dans le péché. » Il dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 7. Donc, l'homme convoite la possibilité que Dieu ne règne pas sur lui. Et c'est pour ça qu'Épaphras, il est en prison, puis il prie « Seigneur, je te prie pour que l'Église de Colosse, ces gens-là soient persuadés, pleinement persuadés, puis qu'ils accomplissent pleinement ta volonté. » Parce que ce n'est pas naturel que l'homme laisse Dieu régner. Et ce qui est méchant, c'est qu'en plus, on appelle ça la grâce. On dit que dans la grâce, il n'y a plus de requis. Ça, c'est méchant, c'est pernicieux. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le fait que maintenant, on n'est plus sous la loi de Moïse pour dire qu'il n'y a plus de requis, qu'on est maintenant sous la grâce. C'est pas grave à cette heure, tu sais, le péché, parce que Christ est mort pour ça, puis il y a la grâce de toute façon. Mais ça va faire des gens qui savent et ne font pas. Puis c'est méchant parce qu'on va utiliser le mot grâce pour ça. Puis on va réagir aux légalistes, à ceux qui, eux autres, ils font. Ils ne savent pas. Eux autres, ils ne connaissent pas la grâce. Eux autres, ils font. Hein? Nous autres, on connaît la grâce. On n'est pas obligé de rien faire. Puis en plus, on va amener les mots chrétiens dans ça. Hein? Paul est pris pour Épaphras, il dit, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières pour qu'il soit pleinement disposé à faire toute la volonté du Seigneur. Donc, c'est des gens qui... Et on va finir, là, on va se rendre du verset 13, quelques minutes qui me restent pour la fin de mon message. On va continuer simplement avec le reste des versets. On va s'arrêter un peu sur le verset 13, puis après ça, on va descendre jusqu'au verset 18 assez rapidement. Je lui rends en effet témoignage. Il se dépense sans compter pour vous et pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Donc, ici, le mot pour dépenser, c'est « il agonise hein? ». Spurgeon a dit « retournons à l'agonie de la prière » dans la dernière citation que je vous avais lue. Il agonise. Agoniser, c'est le même mot qui est utilisé dans l'Apocalypse pour les douleurs. Il n'y aura plus ni tristesse ni douleur. Et quand que les hommes se mordent les lèvres de douleur, c'est quand tu vas te faire opérer ou t'es avec ton chum, tu viens d'escalader, tu viens de te casser de quoi, puis lui, il dit « mord mon doigt, tu sais, je te coupe la jambe. » C'est « mordre, se mordre de douleur. » Non, c'est souffrance extrême. Et Paul dit je rends témoignage qu'il se dépense, qu'il agonise. Puis le mot, c'est aussi quand vous accouchez, mesdames. C'est un mot qui est utilisé, douleur de l'enfantement. Une douleur pour quelqu'un. Hein? Et donc, il est en douleur pour eux. Il s'inquiète des autres. Il se fait du mauvais sang pour eux autres. La Bible a dit vous inquiétez de rien, mais elle dit jamais de ne pas s'inquiéter de personne. Et donc, il y a cette idée qu'Épaphras est dans les douleurs. Il dit j'espère que ça n'avortera pas, cette histoire-là. J'espère que Jean-Claude va continuer. Sa femme vient de dire qu'elle s'en va. J'espère qu'il n'y aura pas l'idée folle là, de mettre fin à ses jours. Là, Ginette vient de perdre son emploi. Un tel a vécu une trahison incroyable. Je m'en fais. Ça me fait quelque chose. Je me dépense pour l'autre. J'agonise pour l'autre. Verset 14. Intéressant, hein? Donc, il s'inquiète des autres. Il ne s'inquiète pas des choses, mais il s'inquiète certainement des autres. Et là, on continue. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Vous remarquez que dans la salutation de l'Église au Colosse, tout le monde a une épithète, à part Démas. Démas. Rien d'autre. Luc, par contre, c'est le médecin bien-aimé. Paul avait une maladie aux yeux dans Galates, il dit, vous vouliez au début, là, au chapitre 4, il dit, quand je suis arrivé parmi vous, il dit, j'ai été obligé de faire un détour à cause de mon infirmité. Et vous m'avez accueilli chez vous comme un ange de Dieu. Vous vouliez vous arracher les yeux comme pour me les donner. Paul avait une infirmité aux yeux et donc il aurait peut-être rencontré Luc comme médecin, puis Luc aurait été son médecin personnel qui l'a accompagné. Et c'est peut-être ça qui a amené Luc à la foi, on ne sait pas. Donc, Luc, médecin, compagnon de voyage, souvent avec Paul. Et quand le nom de Démas est nommé, Démas n'est pas loin. Quand le nom de Luc est nommé, le nom de Démas n'est pas loin. Fait que c'est un ami, probablement, de Luc, mais Démas, c'est Démas. Puis dans Démas, dans 2 Timothée 4, 10, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Donc, peut-être que déjà, quand il a écrit Colosse, Démas, son cœur n'était pas tout à fait là. Il était peut-être l'ami de celui qui avait la foi, qui était Luc. Luc avait placé sa foi en personnel en Jésus. Et Luc est capable de passer toutes les épreuves qu'un croyant doit ou va traverser, mais Démas n'a pas toffé. Puis c'est écrit, il a aimé mieux le monde présent, puis il l'a abandonné. Mais c'est plus tard qu'il va écrire ça, dans sa deuxième emprisonnement, qu'il va pouvoir écrire ça. Donc c'est intéressant quand même de voir que son nom paraît, mais qu'il n'y a aucune épithète rien à dire sur Démas. Saluer les frères et sœurs qui sont à Laodicée. Donc ça, c'est l'église, le grand centre chrétien qui était à peu près une douzaine de kilomètres. Et Niphas est l'église qui est dans sa maison. Donc les experts du grec Lightfoot dit qu'à Laodicée, l'église se rassemblait dans une maison de Niphas. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et Archippe, ce serait le pasteur de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur ton service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Et le mot, c'est encore une fois la même que Epaphras prit pour. C'est la même racine, c'est pléro qui est là. Ici, ça veut dire remplir, remplir. Remplir la volonté du Seigneur, remplir le ministère, c'est le même mot. Ouais, c'est la même racine du mot, je m'excuse. Et là, il dit, je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Ah oui, quand il avait écrit aux Galates, il dit, vous voulez vous arracher les yeux, tout ça, il finit sa lettre, il dit, voyez de quelle grande lettre je vous ai écrit. C'est que Paul faisait probablement écrire ses lettres par quelqu'un d'autre, mais là, Galates, il l'a écrit de sa propre main, donc c'est des grandes lettres, parce que lui-même, il était aveugle, ou presque aveugle. Donc, il dit encore ici aux Colossiens, écoutez, je vous ai écrit de ma propre main. Peut-être que la lettre a été dictée par quelqu'un d'autre, mais à la fin, c'est lui qui l'écrit de sa propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier, que la grâce soit avec vous. Et c'est comme s'il disait, toute la lettre, ça a été un combat pour vous, mais n'oubliez pas, j'étais un homme aussi, et je suis dans les chaînes pour vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc, que la grâce de Dieu soit avec vous. J'espère que vous avez aimé l'étude de l'Épître aux Colossiens. On avait fait quelques années une trentaine de messages sur l'Épître aux Éphésiens, qui était une épître complémentaire, qui était probablement envoyée dans le même temps. On a aussi fait l'Épître aux Romains au complet. J'aime ça, passer verset par verset, parce que ça nous permet de ne pas contourner quelque chose qu'on ne connaît pas trop, t'sais. Même mercredi passé, c'est pas moi qui ai prêché le message parce que c'était pas un sujet que j'étais assez habile, mais je voulais qu'on l'adresse, la culture, avec Pasteur Patrice. Fait qu'en étudiant verset par verset, ça ne nous empêche pas quand même de toucher à des choses bien, bien précises dans nos vies, comme aujourd'hui, on a vu, on s'est servi d'Épaphras qui combattait pour ses frères, pour parler de l'importance de combattre les uns pour les autres dans la prière. Et donc, je vous souhaite de vous ouvrir les uns aux autres, de vous trouver quelqu'un. Si vous ne pouvez pas être là le mercredi, de partager vos requêtes de prière, puis de prier avec persévérance, les uns pour les autres. Puis, vous êtes chanceux. J'utilise le mot « chanceux » parce que si les gens dans le monde nous écoutent, vont dire, vont penser que c'est juste une loque parmi tant d'autres, mais on sait que vous êtes bénis, dans le fond. Mais vous êtes chanceux si vous avez un ami qui prie pour vous. Et vous êtes, les gens qui vous connaissent ont un privilège d'avoir quelqu'un qui peut se présenter. Ce n'est pas juste qu'il veut. Mais qui peut se présenter devant le trône de grâce pour changer les choses. Parce qu'on a été rendu, nos pétitions, qu'on pourrait dire, sont acceptées devant le trône de la grâce parce qu'on a été rendu acceptable par l'œuvre de Jésus-Christ. Si aujourd'hui vous êtes ici, puis que vous n'êtes pas sûr que vous avez accès au trône de la grâce, ben je veux juste vous dire que Jésus-Christ a pris vos péchés sur la croix, il les a pris sur lui, il les a portés sur la croix, il a été puni à votre place pour que vous ne soyez pas punis. Et en échange, il a pris sa justice et sa sainteté. Lui qui n'avait commis aucun péché, sa réputation a été placée sur vous. Et il vous offre cette transaction-là par une simple foi de votre part. Un, reconnaître que vous êtes pécheur, reconnaître qu'il a été jugé à votre place, puis accepter cette transaction-là. Accepter que 3 jours plus tard, après avoir été enseveli, il a été ressuscité des morts, puis qu'il est parti vous préparer une place. Ce n'est pas une question de faire quelque chose de bien pour être sauvé. C'est une question d'accepter ce qui a été fait de bien pour que je sois sauvé. Si vous voulez recevoir ce qui a été fait pour vous à la croix, répétez cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que Jésus-Christ a été puni à ma place pour que je sois sauvé, qu'il a été ressuscité pour me préparer une place. Je l'accepte. Seigneur Jésus, sois mon sauveur et mon maître. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et on va.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.